7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Où est-on le plus grand, où est-on le plus petit? Une étude publiée dans la revue Medical The Lancet et menée par des chercheurs de l'Imperial College de Londres a analysé les courbes de croissance d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans sur ces 35 dernières années. Bonjour Barbara Eudes.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche en épidémiologie à l'INSERM. Alors de quoi s'agit-il? Qu'observe-t-on comme éventail de taille?
Oui, bonjour, merci. Donc cette étude vraiment est très intéressante et très informative. Elle décrit les inégalités géographiques qui existent entre les pays concernant la taille moyenne des enfants, donc de 5 à 19 ans. Et on sait que la taille des populations, et notamment des enfants, est considérée par l'OMS, UNICEF, comme le reflet de la bonne santé des populations. Et donc le premier résultat montre que ce qu'on savait quand même déjà, c'est-à-dire que la taille des populations diffère en fonction de l'indice de développement des pays. Et donc on parle par exemple, ce qui est décrit comme premier résultat, c'est de différence de taille d'environ 20-21 cm pour les filles et autour de 24 cm pour les garçons entre les pays à bas revenus et les pays à haut revenus.
Oui, ça donne effectivement différentes extrémités. 1,83 m aux Pays-Bas et 1,60 m au Timor oriental pour les garçons, par exemple.
C'est ça. Donc, ce qui est aussi très original dans cette étude et plus informatif qu'une simple photographie à un moment donné. Donc là, c'est les différences que l'on observe chez les enfants de les jeunes adultes de 19 ans en 2019. L'originalité, c'est vraiment l'étude des trajectoires, de l'évolution de la moyenne de la taille de ces enfants depuis les années 80. Et c'est très important car là, on est vraiment certain que les différences qu'on observe entre deux pays ne peuvent pas être attribuables à des différences de facteurs génétiques ou ethniques. On sait que ces facteurs sont très impliqués dans les inégalités de croissance de la taille entre les individus. Mais sur une échelle de temps de quelques dizaines d'années, c'est évidemment pas des évolutions de nos patrimoines génétiques qui sont en cause.
Qu'est-ce que ça donne pour la France?
Alors, la France, donc le constat actuel de la France, c'est que on se situe un petit peu au-dessus de la moyenne de la médiane des distributions de taille en 2019. Et nous avons travaillé dans notre centre de recherche à décrire quelle a été l'évolution au cours des 50 dernières années de la taille des enfants français en regardant comment les enfants actuels se positionnaient sur les anciennes courbes de croissance de référence du carnet de santé. Sachant que ces courbes décrivaient en fait la croissance d'enfants nés dans les années 50. Donc c'était assez ancien. Et on a constaté des différences vraiment importantes et c'est ça qui nous a amené donc en collaboration avec le ministère de la Santé à construire et proposer de nouvelles références dans les nouveaux carnets de santé qui sont distribués depuis 2018.
Alors moi j'ai deux chiffres, 1,76 m en moyenne pour les Français, 1,64 m pour les Françaises. Comment ça évolue depuis 30 ans?
Alors en revanche, les données que nous avons souligne que les évolutions ont certainement eu lieu plutôt entre les années 50 et les années 80 que entre les années 80 et aujourd'hui. Et en effet, cet article le montre, d'autres études l'ont montré également. Il y a un infléchissement de ce qu'on appelle cette tendance séculaire, un ralentissement dans certains pays. Parce que quand on observe ces tendances, ces évolutions importantes, on est vite amené à se demander si elles vont continuer pendant combien de temps, quelle taille feront nos arrière-arrière-petits-enfants.
Oui, est-ce qu'ils passeront les 2 mètres tous en moyenne? Est-ce qu'il n'y a pas de limite à la croissance des individus, Barbara Eudes?
Bon, c'est une question un peu pour des anthropologues, mais on peut quand même raisonnablement penser que nous allons nous rapprocher de notre potentiel génétique de croissance, une sorte de taille optimale en quelque sorte, à un moment donné, si les conditions environnementales le permettent. et donc que ce phénomène va ralentir. Et ce phénomène ralentit déjà dans les pays à haut revenu qui ont connu leur transition nutritionnelle et de société avant donc le début des années 80 où commencent les résultats de cette étude.
Alors ça c'est important Barbara, de vous parler de facteurs nutritionnels, mais alors quels sont-ils, quels sont les aliments qui sont censés permettre une plus forte croissance ?
Alors oui, il faut qu'on utilise ce type d'observation pour se demander quels sont les facteurs qui influencent à ce point l'évolution de la taille moyenne des populations et donc des facteurs sur lesquels on pourrait intervenir pour améliorer la santé des populations. Donc il faut noter que énormément de facteurs entrent en ligne de compte et interagissent pour moduler la croissance d'un individu. Mais quand on regarde à l'échelle des populations de façon aussi globale que c'est fait dans cette étude, on peut en souligner deux. Et avant le facteur nutritionnel, il faut quand même souligner les facteurs sanitaires, le fait que les conditions d'hygiène, les politiques de prévention, de vaccination ont vraiment réduit drastiquement les infections au niveau mondial. Mmh. Or, les maladies infectieuses graves ou des infections à répétition pendant l'enfance sont responsables de retards de croissance importants. Et donc, vient également, évidemment, la question de la nutrition. Donc, la malnutrition est un problème majeur dans le monde. Elle est responsable de retards de croissance importants tout au long du développement. Mais la recherche en nutrition ces dernières décennies, a vraiment décrit précisément ce qu'est une alimentation optimale pour l'enfant. Et je ne peux pas vous répondre précisément parce qu'elle dépend vraiment des différentes phases de développement de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'adolescence.
Non mais question naïve, Barbara Eudes. On se dit par exemple qu'entre la France et les Pays-Bas, puisque les Pays-Bas sont dans le haut de la fourchette en matière de taille des individus, et il n'y a pas véritablement de différence notable en matière d'alimentation. Comment expliquer dans ces conditions qu'il y ait quasiment 10 cm d'écart entre la taille des hommes en France et aux Pays-Bas ?
Oui, tout à fait. On arrive plus facilement à expliquer des différences entre la Chine et la France qu'entre la France et les Pays-Bas d'un point de vue nutritionnel. Donc, quand des pays sont proches, on peut incriminer, entre guillemets, des facteurs plus génétiques. Mais peut-être qu'on peut aussi aller chercher, quand on a des zones géographiques plus resserrées, d'autres types d'inégalités. Mmh. Parce que cette étude ne le permet pas, mais au sein d'un même pays, on peut bien sûr penser qu'il y a de fortes inégalités. En Chine, par exemple, on imagine une différence très forte entre les zones rurales et les zones urbaines. Mais c'est aussi le cas en France, où il existe des inégalités régionales et sociales très importantes.
Ah oui ?
Il faut rappeler qu'en France, un enfant de moins de 3 ans sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et que les arbitrages budgétaires des familles en situation de précarité se font très souvent au détriment de l'alimentation. Et l'insécurité alimentaire des familles est une réalité en France, une réalité contre laquelle il faut lutter. Donc peut-être que ces inégalités françaises font qu'on observe encore des différences.
C'est peut-être un facteur explicatif.
Entre les pays européens.
Merci beaucoup Barbara Eudes. Je rappelle que vous êtes chargée de recherche en épidémiologie à l'INSERM. 7h23 sur France Culture.